18h-19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. À tous, nous sommes le 12 octobre et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U sur le 101.1 FM. Ce soir, on aura la chance de vous diffuser une interview canapé entre Enora Penamen, notre chargée de communication à Radio U, et le youtubeur, comédien, humoriste et producteur de musique Jimmy Labeu, qui était de passage à Brest il y a un peu plus de 2 semaines, pour nous parler de la sortie de son projet musical qui arrive très bientôt. Et avant ça, on est tout de suite avec Alice Goulaouik, qui travaille à la nouvelle épicerie solidaire Kizak et qui ouvre en novembre. Bonjour Alice.
Bonjour.
Donc comme je le disais à l'instant, vous travaillez à l'épicerie solidaire Kizak, qui ouvre prochainement et qui sera destinée aux habitants des quartiers de Bellevue et de Lambézélec, et qui proposera des produits alimentaires, mais aussi des produits d'hygiène ou autres. Première question, comment est née l'idée de ce projet ?
Alors, ce projet, c'est un projet collectif qui est porté par 4 associations de la ville de Brest. Il y a la GEB, il y a le Secours catholique, la Banque alimentaire et la SPAB. Et c'est né, il y a déjà un petit moment, en 2015, via l'appui de la ville de Brest et le CCAS de Brest, autour de l'idée de renouveler l'offre de solidarité alimentaire. L'idée avant, c'était que ce soit... c'était surtout des colis distributifs, en fait, où les gens n'ont pas le choix de ce qu'ils reçoivent comme denrées. Et donc, l'épicerie, l'idée, c'est de changer ça, et que les gens choisissent et payent l'alimentation.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer la démarche à suivre pour avoir accès à l'épicerie ?
Oui, alors on n'est pas encore tout à fait calé, ça ouvre fin novembre, mais voilà. Dans les grandes lignes, en fait, l'accès à l'épicerie, ça sera sur orientation d'un travailleur social, via les CDS, les centres départementaux d'action sociale, ou les associations membres du projet. Il y aura une étude, en fait, d'un dossier, des ressources et des charges des personnes qui permettront de voir si elles relèvent ou pas du public qu'on vise.
Et de ce que j'ai compris en regardant un peu sur Internet, il faut aussi avoir un projet. Donc pour accéder à l'épicerie, c'est-à-dire qu'on a un projet, on le présente, et l'épicerie nous permet de faire des économies pour ensuite permettre à la personne de lancer le projet en question. Est-ce que vous pouvez nous parler des différents types de projets dont il peut s'agir ?
Ouais. En fait, quand on dit projet, finalement, on a un peu revu le mot, c'est plutôt objectif, un objectif personnel qu'on peut avoir. Je prends souvent l'exemple, mais un loyer, par exemple, qui est impayé et qui, du coup, est problématique sur le budget depuis quelques mois. Ça peut être aussi le souhait de reprendre une formation qui nécessite aussi de mettre de côté un peu d'argent. Ou un équipement électroménager qui tombe en panne. Enfin bref, ou partir en vacances juste. Quand on a un budget serré à la fin du mois, ça devient vite compliqué de mettre de l'argent de côté. Donc l'épicerie solidaire, l'objectif, c'est que en accédant 3 mois, 6 mois à l'épicerie, on puisse économiser sur le budget alimentaire, d'hygiène et d'entretien, et du coup de réaliser des projets personnels.
Et donc du coup, l'idée d'une épicerie solidaire de manière générale, c'est simplement le fait d'avoir des produits moins chers, ou c'est aussi d'autres initiatives ?
Alors, c'est d'abord effectivement d'accéder à une alimentation moins chère, mais aussi de qualité. On a un partenariat avec la Biocoop, par exemple, qui nous appuie pas mal sur le projet. Et du coup, c'est vraiment dans cette démarche-là de travailler plutôt avec du bio et du local. Mais c'est pas que ça, c'est aussi, c'est vrai, plutôt de l'insertion sociale dans le quartier. Donc les personnes, on travaille aussi avec la maison de quartier, avec le centre social, avec d'autres acteurs. On va pouvoir faire des ateliers cuisine avec eux ou avec d'autres partenaires, par exemple. Et puis c'est aussi juste s'ouvrir et pouvoir orienter les personnes vers des activités qu'elles ne connaissent pas.
Et donc vous disiez tout à l'heure que vous travaillez avec différentes associations, etc. Est-ce que vous avez des financements de la part de l'État, de la ville, ou justement de ces associations pour vous aider dans cette démarche de développement de cette épicerie?
Oui, bien sûr. En fait, une épicerie comme ça, si on vend à 10 ou 30% du prix pratique en magasin, c'est clair que ça ne tient pas. Donc on est obligé d'aller chercher, et heureusement les soutiens sont là, de l'État, de la ville de Brest, du conseil départemental... mais aussi d'appel à projet, en fait, qu'on va aller chercher. Je parlais de la Biocop tout à l'heure, il y a le fonds de dotation Biocop, on a eu Vinci pour la cité, l'ADEME, la DRAF, bref, plein d'organismes vers lesquels on se tourne, qui nous aident à faire que ce projet puisse tenir.
Et donc justement, vous disiez tout à l'heure que vous êtes justement en collaboration avec Stan Biocop. À quel point c'était important pour vous que, parmi vos différents produits, il y ait donc du bio, du local, et que ce soit des produits de la meilleure qualité possible?
Pour nous, c'est essentiel. C'est un des piliers aussi du projet. On parle beaucoup du respect de la dignité des personnes, et donc c'est de leur offrir aussi le choix de... produits qui ne soient pas que à date très courte ou bas de gamme, c'est qu'ils aient aussi accès à une alimentation la plus qualitative possible.
Et est-ce que vous pensez que vous aurez plus de clients à cause du Covid? Parce que forcément, le virus a pu aggraver l'état de pauvreté de certains, et notamment la difficulté à se nourrir.
Alors malheureusement, oui, on n'aura pas plus de clients, parce qu'on va être obligé de limiter, en fait, comme l'accès est sur dossier. Et qu'on va, de toute façon, une petite épicerie et avec un fonctionnement un peu particulier. Par contre, de personnes qui potentiellement pourraient venir à l'épicerie, on sait que oui, il y en aura sans doute plus qu'avant la crise. Et c'est là aussi où le projet que porte l'association pour laquelle je travaille, qui s'appelle donc l'épicerie solidaire en réseau, est intéressant, parce que c'est bien un réseau qu'on veut développer, et donc plusieurs épiceries, donc pouvoir répondre vraiment plus à la demande aussi.
Et du coup, vous avez un peu parlé des biocopes encore une fois tout à l'heure, mais de manière générale, comment seront récupérés les produits, où et par qui?
Alors, ça sera par les bénévoles déjà, question plus facile, puisque l'épicerie, alors à part moi qui suis salariée, mais pour coordonner le projet global, ça sera une épicerie associative et citoyenne, avec des bénévoles qui seront là pour gérer quelque part un peu l'épicerie, avec mon appui évidemment. Un peu sur le modèle de ce qu'on peut penser, du fonctionnement de Ticop, par exemple, qui est l'épicerie coopérative, qui s'est montée avenue Jean Jaurès. Et où est-ce qu'on va aller chercher? On va aller en chercher aussi à la banque alimentaire, parce qu'on est une structure de solidarité alimentaire, dans les grandes surfaces, et puis on va aller aussi acheter auprès de producteurs locaux.
D'accord, merci beaucoup. Et avant de continuer, on va écouter Global Warning de Gloria.
We'll be right back.
Vous êtes sur Radio U, dans l'émission C'est vous qui le dites, et c'était le titre Global Warning de Gloria. Avec nous, toujours, Alice Goulaouik, ici pour nous parler de Kizak, l'épicerie solidaire, qui ouvre en novembre pour les populations de Bellevue et Lambézélec. Est-ce que pour l'instant, vous avez déjà eu des retours d'habitants de Lambézélec ou de Bellevue qui vous sont reconnaissants par rapport au fait que vous ouvrez cette épicerie ?
D'habitants, alors pas de... Pas vraiment directement, enfin si, si on veut, en fait, si, il y a un bar juste à côté de l'épicerie, le stand-by, où du coup, je croise des clients et qui posent des questions sur ce que c'est, ce que ça va devenir, et qui trouvent ça plutôt chouette, en fait, comme initiative, de voir ça dans le quartier.
Et pourquoi, du coup, ouvrir une épicerie à ces endroits-là ? Est-ce que c'est parce qu'il y avait un besoin qui était fort dans ces quartiers ?
Ouais, en fait, alors c'était avant que j'arrive, donc le choix du lieu. Je pourrais pas revenir en détail sur le pourquoi. Enfin, néanmoins, en fait, on a bien vu que les quartiers prioritaires de Brest, c'est 25% de personnes qui vivent sous le seuil de précarité. Donc il y a un besoin fort, ils sont en situation de ce qu'on appelle la précarité alimentaire, c'est-à-dire de pas pouvoir avoir 3 repas par jour équilibrés, même juste 3 repas par jour. Donc c'était Bellevue, c'était un des quartiers ciblés en priorité, de même que la rive droite. Voilà, donc c'est ce qui explique pourquoi ciblé.
Et vous n'avez pas pensé à justement vous mettre dans le centre parce que vous aviez la possibilité de toucher plus de gens ?
Dans le centre, c'est pas tout à fait la même population. Il y a une offre aussi alimentaire qui est différente. Là, dans les quartiers, il y a aussi ça concentre en fait. Des difficultés sociales, économiques. Il y a aussi une offre alors qui existe, hein, parce qu'il y a plein d'équipements de quartier, d'actions culturelles, etc. Ce besoin-là, en tout cas, était clairement plus criant dans les quartiers.
Et donc, du coup, l'épicerie sera ouverte 3 demi-journées de la semaine. Pourquoi ne pas faire le choix de la laisser ouverte toute la semaine ?
Ça, c'est juste une question purement pratico-pratique. C'est qu'on va être avec une équipe de bénévoles. Et donc, ça demande déjà beaucoup d'énergie d'ouvrir 3 demi-journées par semaine. Donc, et même pour la fin d'année, on va être juste à 2 demi-journées, le jeudi et le samedi. Parce que il faut gérer l'approvisionnement, il faut gérer la gestion des stocks, il faut gérer les créneaux d'ouverture, etc. Donc ça m'oblige déjà, on a 30 bénévoles pour ça, c'est déjà pas mal de temps.
Et justement, en parlant de bénévoles, pourquoi faire le choix de chercher des bénévoles et pas des salariés ?
Ah ben, ça c'est tout simplement économique aussi, enfin aussi parce que le budget de toute façon ça tiendrait pas d'avoir que des salariés pour cette épicerie, et aussi parce que c'est... pour nous, important d'impliquer les gens dans le projet. On est sur un projet solidaire, citoyen. Puis c'est la logique associative également du projet. Puis on le voit là avec l'appel à bénévoles qui a hyper bien fonctionné. Les gens sont vraiment prêts à ça, prêts à donner du temps pour s'entraider, et c'est super.
Et du coup, en parlant de démarche solidaire, est-ce que vous comptez aussi aider d'autres populations, par exemple en faisant des maraudes ?
Alors non, c'est pas notre objectif, parce que on a déjà par exemple la Croix-Rouge qui fait partie, qui nous aide beaucoup dans le projet, qui est très présent et qui rejoindra très très bientôt. Les maraudes, c'est pas notre cœur de métier entre guillemets. Enfin, en fait, on vient vraiment apporter une aide alimentaire, une solidarité alimentaire complémentaire à ce qui existe déjà. Il y a déjà de la distribution alimentaire dans les quartiers. Dans Brest, tout simplement. Il y a plein de points. Il y a les Restos du Cœur, le Secours Populaire, le Secours Catholique, et d'autres encore, qui permettent aux personnes en situation d'urgence d'avoir à manger. Nous, on vient là en complément de ce qui existe déjà, et vraiment en s'adressant à une population qui peut aussi payer les 10% ou les 20% qu'on va leur demander. Et c'est... Ce qu'on veut, c'est vraiment ça, c'est leur donner la possibilité de payer et de respecter leur dignité, en fait, de choisir et de payer, parce que ils le souhaitent aussi.
Et c'est important pour vous d'avoir une forme d'autonomie, du coup, à travers les bénévoles, et de ne pas être totalement dépendant d'autres associations ?
Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout à fait compris la question.
C'est-à-dire que, est-ce que le fait d'avoir des bénévoles, c'était un moyen pour vous de ne pas avoir de salaire à verser, et donc du coup de ne pas forcément dépendre d'autres associations ou de l'État ou autre, et d'être plus libre ?
Ah. C'était pas tellement dans ce sens-là. En fait, on va de toute façon être plus ou moins dépendant d'aide financière qu'on va aller chercher. Après, on sait aussi que l'évolution des associations, l'évolution du financement est complexe. Il faut toujours être à la recherche de partenaires. Et bien sûr qu'un modèle économique avec plusieurs salariés, c'est plus fragile qu'avec une équipe de bénévoles en soutien.
Et donc, du coup, qui peut être bénévole ?
Bah, un peu tout le monde, en fait. On est plutôt ouvert. On a des missions très différentes, avec des compétences variées. Et c'est bien ce qu'on a vu dans notre appel à bénévoles. Alors aujourd'hui, on est plutôt complet. On a même eu plus de propositions de bénévolat que de postes à pourvoir. Mais en fait, oui, on a rencontré de tout, de l'étudiant aux personnes au chômage, aux personnes retraitées, aux personnes actives, de tout, avec des compétences, des parcours hyper variés. Ça va être super chouette.
Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les tâches qu'ils auront à faire ?
Comme dans une épicerie classique, il y aura l'approvisionnement, aller rencontrer les fournisseurs, faire le point sur les stocks. Ça va être aussi faire la mise en rayon, le tri des produits qu'on va recevoir de la banque alimentaire ou d'ailleurs. Ça va être aussi l'accueil du public. Proposer de boire un café, parce qu'on est un lieu, on est une épicerie, mais aussi un lieu où on peut se poser pour discuter, parler de ses problèmes, chercher des solutions. Et puis la caisse aussi. Il y a aussi ça comme tâche.
Et bon, donc du coup, là, vous disiez que vous étiez a priori plutôt complet par rapport aux bénévoles. Mais si jamais vous faisiez de nouveau un appel à bénévoles, quelle serait la démarche à faire ? Ou quelle a été la démarche que les bénévoles ont dû faire là ?
Alors en fait, on a fait un appel à bénévoles via plusieurs canaux, via notre page Facebook, via Tous Bénévoles aussi, un site qui permet de publier des offres, et puis le relais des associations membres. Et ensuite, on a organisé des réunions d'infos qui nous ont permis de rencontrer les bénévoles, de leur expliquer globalement le projet. Et la deuxième étape après, c'est qu'on les rencontre chacun individuellement pour voir ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent. Et voilà, et leur répondre à leurs questions aussi en individuel. Et puis après, ça va être parti.
Et du coup, pour les personnes qui seraient potentiellement intéressées pour être bénévoles à l'avenir, quelle est la disponibilité qu'il faut avoir pour être bénévole ?
C'est minimum une demi-journée par mois, et c'est vraiment un minimum parce qu'il faut aussi s'intégrer dans l'équipe, il faut bien connaître le fonctionnement de l'épicerie. C'est, je veux dire, plutôt deux demi-journées par mois vraiment pour venir.
Et enfin, dernière question, sur le long terme, vous espérez aider combien de personnes sur un an, puis sur 5 ans ?
Comme client ?
Oui.
Ouais. Alors là, pour la fin d'année, on est sur 20-30 foyers. Mais sur 2021 et ensuite, on est sur 100 foyers qui pourront accéder à l'épicerie.
Donc 100 foyers par année ?
Ouais.
D'accord. Merci beaucoup, Alice.
De rien.
Donc Alice Goulaek, qui était donc là pour présenter l'épicerie solidaire Kizak, qui ouvrira ses portes en novembre, à destination des résidents de Bellevue et de Lambézélec. Donc on rappelle que si vous voulez en savoir plus sur cette épicerie, ou pourquoi pas devenir bénévole à l'avenir, vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur la page Facebook Épicerie Solidaire Kizak. Et si vous avez des questions, envoyez un mail au mail bonjour@esr.infini.fr. Et tout de suite, on écoute Penda Jiga de Afel Bokoum.
Salam alaikum, yaya no gamba ya no moya na ay malo ya wana me. Salam alaikum, yaya no gamba ya no moya ay malo ya wana me. Ama tu diga ma Gama Michigan. Hai Ben Nadi Gama Gani Aide. Chigama Michigan.
Sur le 101.1 FM dans l'émission C'est vous qui le dites, et on vient d'écouter Penda Jiga de Afel Bokoum. Et maintenant, on écoute l'interview canapé du youtubeur, comédien et producteur de musique Jimmy Labeu. Interview faite sur le vif hors studio et réalisée par notre chargée de communication Enora Penamen, alors que Jimmy était de passage à Brest il y a un peu plus de 2 semaines pour nous parler de son projet musical qui sort très bientôt.
Jimmy Labeu, bonjour.
Bonsoir. Comment vas-tu?
Ça va très bien, et toi?
Très très bien, magnifique.
Alors du coup, je te fais une petite interview aujourd'hui parce que tu es connu en tant que youtubeur.
Exactement.
Et j'aimerais bien que premièrement, tu racontes ton parcours pour te faire connaître par nos auditeurs.
Qui ne me connaissent pas. Donc je suis Jimmy Labeu, belge avant tout, évidemment. J'ai commencé quand j'avais 18 ans, 19 ans, ça veut dire il y a plus ou moins 15-16 ans, sur Vine à la base, donc la petite application qui faisait des vidéos de 7 secondes. Puis YouTube, j'ai fait quelques films, j'en ai fait 7, je ne sais plus exactement. Et voilà, donc maintenant je suis un comédien belge, pour résumer tout ça. Donc, voilà.
D'accord, très très bien. L'interview donc consiste, donc parce que tu as lancé un son, enfin tu aimerais produire...
Exactement. Je suis passionné par la musique depuis je suis tout petit, et j'arrive à me lancer là-dedans, donc en production. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans et ça va venir.
Depuis combien de temps est-ce que tu comptes faire ce son que tu produis, que t'as cette idée dans ta tête?
En produire, ça fait déjà 4 ans, 3-4 ans, mais bon, produire, c'est, ça paraît facile à dire. Mais bon, faut d'abord tu te testes, tu trouves ton style déjà, que ce soit techno ou rock ou hip-hop ou R&B, faut trouver son style, comment le faire, quel logiciel, comment l'amener. Enfin, il y a plein de choses, hein, qui sont mis en compte. Et voilà, donc là, j'ai trouvé comment l'amener et le projet est terminé, on va dire.
Et est-ce que tu as une date de sortie pour ce projet, du coup ?
Là, précisément, non, mais ce sera avant l'année, sûr et certain.
Donc, dans les mois qui suivent ?
Ouais, ce sera, à mon avis, aux alentours de mon anniversaire. Donc, moi, je suis né fin octobre, Halloween, on va dire.
À Halloween, très Halloween. Bien, très très bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler, du coup, donc pourquoi tu t'es lancé dans la création, du coup, de ce son ?
Ben écoute, moi, comme je disais avant, je suis passionné par le son, mais pas forcément, parce que là, c'est un son techno que je vais sortir, mais bon, moi, j'ai mon père m'a élevé à Depeche Mode, Robbie Williams, Daft Punk.
Qui est différent de ce que tu vas faire, du coup.
Oui, bien sûr, évidemment, mais bon, plein de gens s'inspirent de, qu'on sample, par exemple, des sons de, il y a plein de sons techno qui s'inspirent de sons disco, par exemple, etc. Donc, la musique, c'est très éclectique, donc tu peux faire tout avec tout, entre guillemets. Donc voilà, mais sinon, voilà.
Voilà, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a fait te dire je veux produire ce son que tu vas sortir ?
Il n'y a pas eu d'élément déclencheur, mais je veux dire, j'ai envie de dire, pardon, que avant de trouver son son, comme je disais, il faut du temps avant de trouver ce qui plaît, parce que t'as beau faire des bons sons, si ça te plaît pas à toi, tu vas pas les jouer.
Exactement.
Les mettre comme,
oui, bien
comme
sûr.
Tu vas les mettre, mais bon, ça va te plaire forcément. Et moi, ce son là je le sors, et j'ai pris du temps à en sortir un, parce que comment expliquer, allez, merde, j'ai perdu mes mots. Voilà, il faut que ça plaise. Donc moi, par exemple, ce son là que je vais sortir, je peux l'écouter tous les jours, le matin, soir, midi, etc., et ça me plaît. Il y avait des sons que je faisais au tout début, j'en ai peut-être 4-5 dans ma banque de sons, mais qui me plaisent pas. Donc j'arrive pas à les écouter, c'est des sons que j'ai fait que j'aime pas. Et celui-là, il me plaît vraiment bien, il me correspond très très bien. Et donc voilà, j'ai envie de le sortir.
Donc tu as voulu, du coup, premièrement faire un son qui te plaît à toi.
Exactement.
Avant de plaire à un public, entre guillemets.
Oui, je cherche pas le côté commercial, le côté un peu tout public, etc. Je cherche avant tout un truc, mais mettre sa patte, comme on dit, avoir sa patte musicale, pardon. Mais donc voilà, je trouve un son qui me plaît vraiment à moi, qui me correspond très bien, et que les gens se disent pardon, voilà, en fait on va aller sur cette route là avec lui, quoi.
Et est-ce que t'as eu des artistes qui t'ont inspiré pour faire cet album, ou alors est-ce que tu as cherché tout seul à faire ce son en produisant, ou t'as eu des inspirations des personnes que tu suis peut-être sur les réseaux sociaux ou que tu écoutes qui t'ont donné envie de faire ce son que tu vas sortir?
Bah écoute, les gens qui me connaissent bien sur les réseaux sociaux, etc., savent bien que je suis un grand fan de monsieur l'allemand Paul Kalkbrenner, le monsieur berlinois, on va dire. Donc ça, bien évidemment, une inspiration de ouf, comme les acteurs qui s'inspirent d'autres acteurs, etc. Bah, vu que j'ai un acteur, donc ça marche bien aussi. Mais ouais, évidemment, il y a eu Paul K qui m'a beaucoup inspiré, etc. Il m'a beaucoup. C'est grâce à lui que je me suis lancé dans la musique, etc. Il m'a beaucoup inspiré. Après, c'est pas du copier-coller, évidemment. Il faut qu'il y ait sa patte, comme je dis, évidemment. Mais ce garçon-là m'a beaucoup inspiré. Mais évidemment, il y a, ça peut être Daft Punk, ça peut être, comme j'ai dit, Depeche Mode, ça peut être INXS, les ABBA, ça peut être un peu tout, quoi. Donc voilà. Mais Paul K, généralement, bien sûr que oui.
D'accord. Est-ce que c'est toi qui as tout fait, donc la musique, le mixage, la cover, ou alors est-ce que tu t'es fait aider pour faire ce son, je sais pas, la mise en forme du son, quoi. Est-ce que c'est toi qui as tout fait?
Et oui. Est-ce que c'est que dans la musique, soit t'es patient, soit tu n'es pas patient. Et moi, je suis pas un garçon très patient, donc bon, faut que ça aille vite. Donc comme dans tout, hein, comme ce soit dans la vie personnelle, professionnelle, un peu tout, faut que ça aille vite, faut que tout aille vite. Je suis pas patient du tout. Donc la musique, évidemment, je peux passer des heures à faire à être sur Ableton, le logiciel pour jouer du son d'ailleurs. Mais sinon, je me fais aider, évidemment, je suis pas un gestion, je suis pas mixeur, je suis pas, etc. Moi, je fais du son, quoi. Après, le rendre plus net et le plus beau, ça, c'est autre chose. Avoir un graphiste pour la cover, etc., ça, c'est encore un autre métier que je ne maîtrise pas. Moi, c'est juste être sur mon PC, me mettre, boire une petite bière à côté, etc., et faire du son, quoi. Et après, on va, évidemment, faut pas que ce soit la va-vite non plus, donc faut qu'il y ait un côté.
Parce que toi, à la base, etc., du coup, c'est une passion que t'as voulu transformer, du coup, comme un métier, je dirais, parce que c'est pas ton cœur de métier de faire ce son, enfin de sortir, de produire, mais t'as voulu vraiment essayer de t'orienter vers quelque chose qui te plaisait et te passionnait, quoi.
Oui, c'est ça, parce qu'à un moment, que ce soit, dès quand je fais du son, après j'adore faire rire les gens, j'adore faire des vidéos, etc., mais faire du son, c'est une autre émotion, on va dire, comme quand tu vas en festival, comme quand tu vas en soirée avec des potes, comme quand tu mixes, c'est une autre émotion, et j'adore cette émotion, ça me procure plus de frissons que le sexe, limite, on va dire, entre guillemets. et vraiment, c'est vraiment quand je fais du son, quand j'écoute du son, ça me procure une émotion très très différente et beaucoup plus jouissif que les autres, que je puisse faire, que ce soit au cinéma, vidéo YouTube, etc., Instagram, tout ce que tu veux. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire et pourquoi pas faire kiffer les gens. Après, malheureusement, là, pour l'instant, il y a le coronavirus, etc., donc c'est un peu plus compliqué. Les conditions sont un peu chiantes. Et on peut le dire, c'est un peu casse-couille. Mais sinon, quand tout cela sera fini, j'espère un jour, évidemment, aller jouer sur scène, aller faire les propres concerts, aller faire des festivals, rencontrer d'autres artistes aussi. Pourquoi pas Paul Kern, c'est quatre, faire un petit B2B. Voilà, c'est ça, un petit B2B. Mais voilà, tu vois.
Et ça t'a pris combien de temps, du coup, à faire ce son? Enfin, est-ce que ça t'a pris... Tu prépares depuis combien de temps, ça?
Écoute, en vrai... Le son que je vais sortir là, le single, c'est pas un son qui m'a pris beaucoup de temps, mais c'est un son qui a été vite et qui m'a plu directement. Moi, comme je te dis, je marche comme ça, je marche à l'instinct, pas forcément passion. Donc je vais sur Ableton, le logiciel, je scaffoter un peu partout, et le truc a bien matché directement. Ça m'a plu à l'oreille, ça m'a plu, c'était clean, c'est limite clean directement avant même de le masteriser, etc. C'est
donc le son clean. A limite pris 10 minutes, un quart d'heure à être fait.
Ouais, peut-être pas 10 minutes, un quart d'heure, je veux dire, avant d'avoir 4 minutes en termes de single, on va dire, ça m'a pris une heure, grand maximum. En termes de les drums, les machins, la mélodie, tout ce que tu veux. Mais sinon, je peux passer une fois un son 3 heures dessus, tout une avant-midi, mais si t'es pas inspiré, donc ça vient pas. Et là, c'est venu, j'étais inspiré, c'est venu, j'avais 10 minutes, j'avais mes 10 pistes sur la track, quoi, donc c'est passé crème, quoi.
Et de quoi parle ton son? Est-ce qu'il raconte une histoire ou pas forcément? Est-ce que c'est une suite de quelque chose que tu vas sortir d'un projet futur, ou est-ce que c'est juste un son que t'as kiffé comme ça, ou ça raconte quelque chose pour toi?
Moi j'aime bien, mais par exemple le son là, il va avoir un clip très je suis très, vu que j'ai ce côté artistique visuel autre que auditif, on va dire, vu que j'ai les deux entre guillemets, mais j'aime bien associer ce terme de... Là, j'ai fait la musique et j'ai directement, le lendemain, j'ai eu l'idée du clip, par exemple. Et donc, là, le single va s'appeler Repeat, parce que je suis très fan de musique répétitive, de la techno. Enfin, c'est pas que de la musique répétitive, je veux dire, mais il y a un côté quand même qui est très répétitif. On aime ou on n'aime pas la techno, c'est l'un ou l'autre. T'as pas des gens qui disent, j'aime bien plus ou moins la techno. Non, c'est t'aimes bien ou tu trouves ça dégueulasse.
T'aimes pas, quoi.
C'est ça, c'est vraiment ça. Et mais sinon, il n'y a pas forcément de... Comme j'ai dit, je marche à l'instant, donc j'ai fait le son, puis j'ai eu l'idée du clip, etc. Et donc, ça s'appellera Repeat. Donc voilà, rien de plus.
Ok. Et est-ce que tu pourrais nous donner des petits indices sur ton clip que tu vas faire ou pas?
Bien sûr, c'est un clip que je vais tourner dans un château pas désaffecté, mais je veux dire abandonné. Et en fait, je voulais un truc très le clip c'est un gars qui est très triste, j'ai pas encore l'idée précise, etc. Enfin, comme je dis, mais à l'instant, donc encore le jour même du tournage, je pense que j'arrive encore avec 17-18 idées différentes que ce que j'ai écrit sur mon mood board, comme on dit. Mais sinon, à la base, c'est un gars qui est vraiment, il sort d'une rêve partie, il se poursuit parce qu'il a acheté 10 kilos de coke, etc. il a pas payé le trois quarts de la somme, il s'est pourchassé, il se retrouve dans une église, dans un château abandonné, et là il voit un vieux vinyle et un vieux tourne-disque, il met le son et il commence à kiffer pendant 6 minutes parce qu'il aime bien le son, et c'est le son, il danse sur le son, etc., qui est assez
solaire, qui est assez dansant,
mais c'est un côté répétitif, mais comment dire, qui change quand même, enfin ça. Et on passe pas 30 secondes, enfin on passe pas 15 secondes sans changer de rythmique ou de drops, les claps et machin. Il y a vraiment du changement, mais ça reste assez répétitif. Mais moi j'aime beaucoup. Et il y a ce côté un peu, comme tu dis, solaire et machin, etc. Donc moi j'aime beaucoup.
Ok, donc on écoutera ça à la fin de cette interview.
Oui.
Et est-ce que tu appréhendes la réaction de tes abonnés? Parce que du coup, tu te lances dans un domaine qui n'est pas a priori donc le tien, et tu essaies un peu de changer. Est-ce que tu as un peu peur de cette réaction, ou est-ce que justement tu te dis, enfin, je m'en fous un peu de...
Ben, comme je me répète depuis 14 fois, mais je marche à l'instinct, comme je t'ai dit. Donc, mais en plus, il y a déjà eu des... Mais non, pas du tout. Les gens sont hyper... J'ai eu plus de réactions quand je fais une story Instagram ou quoi que ce soit, sur la techno ou quoi que ce soit, ou quand j'ai sorti...
T'as des bonnes réactions?
Oui, bien sûr. Et comme je dis, j'ai plus de réactions limite quand je vais dire je sors un EP, ou quand je vais dire je sors une vidéo demain humoristique. C'est un peu... C'est un peu 50-50, quoi. Et vu que la techno est quand même un domaine assez... Allez, c'est pas que c'est restreint, mais je veux dire, c'est comme une petite secte, on va dire, quoi. Il y a un petit, c'est un petit peu, c'est plus, c'est pas Tomorrowland, quoi. C'est une vieille charrue, quoi. C'est un plus petit festival, je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est plus petit, c'est plus restreint, faut être abonné un petit peu, quoi. C'est pas grand public, on va dire.
Quand tu connais pas, comme tu disais tout à l'heure, faut avoir, écouter la techno pour kiffer un peu ce domaine-là, quoi.
C'est ça, exactement.
Et qu'est-ce que j'allais te dire de plus? Est-ce que tu penses que, en fait, du coup, de voir des youtubeurs sortir des albums, donc je cite donc Mr. V, Squeezie, qui a sorti un son, même McFly et Carlito, qui ont sorti des petits clips un peu rigolos, tout ça. Est-ce que ça t'a permis, du coup, de t'autoriser à essayer ça aussi? Ou est-ce que tu avais déjà cette idée depuis longtemps? Ou le fait de les avoir vus, vu que je pense que tu les côtoies, du coup? Est-ce que ça t'est venu à l'idée, putain, merde, moi aussi, j'ai envie de me lancer, quoi?
Moi, j'ai cette idée-là depuis très longtemps. Mais à l'époque, j'avais pas les mots. Et vu que je suis pas patient, parce que ça reste quand même un logiciel de musique, donc faut apprendre. C'est pas facile.
C'est complexe. Hein.
C'est complexe. Ça dépend, en fait, t'as deux solutions. Soit tu vas avoir le tuto pendant tout le temps, des heures, des tutos. Et moi, en fait, je suis allé dessus, et j'ai fait un peu un impro. J'ai fait, bon, allez, je vais un peu voir ce qui se passe sur le logiciel. Et je dis pas que je suis pas le meilleur, loin d'être le meilleur là-dessus, mais moi, j'ai mon truc, j'ai ma manière de marcher, de fonctionner sur le logiciel. Évidemment, je vois ma Facarito qui se font des sons, Squeezie qui a sorti un album en plus, je sais plus de quoi les autres, non, Mr. V qui est très bon, non. Mais ça, moi, c'est du rap.
Enfin, c'est différent de ce que tu fais.
C'est beaucoup de rap, ouais, c'est ça. Et moi, je vais te faire ce qui me plaît, et je cherche pas à que ce soit.
Tu fais ce que t'as envie de. Tu fais ce qui te plaît, pardon.
Ouais, c'est ça.
Et tu t'en fous un peu.
C'est ça, que le son fasse 10 000 vues ou 10 000. Je suis content qu'il fasse 10 millions, bien sûr que oui. Mais s'il fait 10 000, 15 000, mais qu'il y a 10 000, 15 000. Je préfère avoir un 10 000, 15 000 vues sur YouTube avec 45% de verre, enfin de like, on va dire, et de l'eau. Alors, et faire. Allez. Plutôt que faire 5 millions, avoir 50-50 sur les. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ouais.
Je préfère avoir un plus petit public.
Ouais, voilà, c'est ça.
Parce qu'il n'y aura pas le même public.
C'est différent de tes vidéos. Exactement. De tes vidéos, tout ça, ça va être une. Un autre public, comme tu dis, de personnes qui aiment bien déjà la techno.
Enfin, ce sera un public qui sera dans mon public, évidemment, avec les gens me suivent, mais ce sera plus restreint, évidemment, parce que ça va pas amener beaucoup de gens. Enfin, la musique, ça prend du temps aussi, c'est comme une émission télé, ça prend du temps à pousser, on va dire. Mais voilà, du coup, j'espère que les gens vont apprécier. Moi, j'apprécie en tout cas. Et moi, comme mon père me dit, moi, tant que ça te plaît, c'est que c'est bon. Si les gens n'aiment pas, bah, ils aiment bien, j'ai pas qu'ils aimeront. Mais moi, j'aime bien ce que j'ai fait. Je suis très content de ce qui va sortir. Et donc, voilà, c'est le principal pour moi. Mais j'espère que ça va plaire.
J'espère aussi. Sur quelle plateforme, pardon, tu penses mettre ton son? Tu vas mettre sur SoundCloud, Spotify,
Deezer, YouTube. Mais YouTube, il y aura le clip, il y aura la version non clippée, la version clippée sur ma chaîne, je pense. Ça, je sais pas encore, mais ouais, je pense pas que la version clippée sera sur ma chaîne. Et donc, ouais, ce sera sur toutes les plateformes, quand on pourra l'écouter, on pourra la streamer partout, comme on dit.
Est-ce que tu pourras nous faire une exclue musique, donc nous faire écouter un, je sais pas, 10-15 secondes du son que tu vas sortir, une petite exclue pour la radio?
10-15 secondes, regardez. Là, je pense que je l'ai mis au drop. Voilà, attends, je mets un peu plus fort. Il est où le truc? Ah, il est là. Hop, 3, 2, 1. Et voilà, et 7 secondes.
Super,
j'ai mis
merci.
7 secondes.
Super.
Donc voilà.
Est-ce que tu as d'autres projets en cours dont tu pourrais nous parler ou pas? Que ce soit même vidéo, enfin, dans ta carrière de youtubeur ou de musique, est-ce que tu comptes faire autre chose dans la musique ou dans les vidéos?
En termes de musique, il y a le single qui va sortir, mais c'est un espèce de prequel pour un EP ou un album juste après.
Ce sera le début de ton EP.
Ouais, c'est ça. En fait, à la base, je voulais sortir un EP directement. Je dis, je vais d'abord sortir un petit son avec un truc bien clean, un concert, j'allais dire, un clip, un petit son. Comme ça, les gens savent qu'est-ce qui va. C'est un peu l'entrée, tu vois. Tu vas au restaurant, ça, c'est un peu l'entrée. Tu auras le plat principal, ça va être l'EP. Et tu auras un gros dessert, tu vois, une grosse tarte flambée ou une grosse dame blanche. Ce sera l'album. Et donc voilà, donc d'abord je sors le single, puis l'EP, et puis l'album, et puis pourquoi pas quand encore un virus sera fini, etc. Les concerts.
Tu viendras faire un petit concert à Brest?
Avec plaisir.
À la Carène, ça sera.
À la Carène, mais on ira à la Carène alors, très très bien. On ira à la
Carène. Et c'est non dans tes projets donc de youtubeur ou d'acteur, est-ce que tu aurais de projets ou pour l'instant tu peux rien nous dire?
Là j'ai beaucoup écrit, mais évidemment pendant la période de confinement, j'ai pas beaucoup à tourner, etc. Enfin, à part chez soi évidemment, mais je veux dire, j'ai beaucoup écrit. Donc toi, j'ai beaucoup écrit de courts-métrages, j'ai écrit un long-métrage. Je voulais un peu rendre plus professionnel ce que je faisais d'avant, on va dire.
Okay.
Pas juste faire le gars qui gueule dans sa chambre.
Plus sérieux,
c'est
quoi.
Ça, un peu plus sérieux. Aller chercher d'autres univers, d'autres personnes, peut-être un autre public. Donc voilà, j'écris plein de choses et j'espère que ça va se tourner. Enfin, j'espère non, ça va se faire, ça va se tourner. Donc voilà, donc j'ai tout écrit, il reste plus qu'à prendre la pellicule, comme on dit.
Ok, merci Jimmy du coup pour cette courte interview, mais
avec
intense.
Avec joie, plaisir et bonheur.
Et un dernier mot pour partir.
Beat.
Merci Jimmy, à la prochaine.
À la prochaine.
Vous êtes sur Radio U, dans la quotidienne C'est vous qui le dites. Et on remercie Jimmy Labeu et Enora Penamen pour l'interview. On écoute maintenant So We Won't Forget de Kruang Bin. C'était So We Won't Forget de Crurambing. C'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U. Et je vous laisse maintenant avec la chronique radiophonique L'économie autrement, qui va à la rencontre des personnes qui construisent l'économie de demain, en partenariat avec le CEIS, la saison des expérimentations et innovations solidaires, organisée par Ascoria, une école des métiers du social. Au cœur du quartier populaire du Blône, à Rennes, une réunion se tient. Elle prépare le 3 novembre prochain une rencontre avec les habitants du quartier. Le but, expliquer ce qu'est un centre communautaire de santé.
L'économie autrement, le rendez-vous quotidien de l'économie sociale et solidaire en Bretagne.
Si on prenait une convention, qu'on l'appliquait, que gnagnin, et un modèle d'organisation, eh ben, en fait, on a juste à acheter des tables de consulte et des abaisse-langues et on ouvre demain, quoi. Sauf qu'en fait, comme on veut faire quelque chose de nouveau, nouveau, original dans le sens où on ne plaque pas un modèle tout fait, mais en fait, tout est... Même au niveau des financements, on est toujours à la croisée de plein de choses.
Donc, je suis Fanny Guillon, je suis coordinatrice de l'association Centre de Santé Communautaire du Blône. Et je suis salariée donc, depuis janvier. Et l'association elle existe depuis juin 2019.
Ce projet, en quoi consiste-t-il ?
C'est la création d'un centre de santé communautaire au Blône, où on proposera des consultations médicales individuelles et aussi des actions collectives autour de la santé. Le cœur du projet, c'est les habitants d'un quartier, enfin, c'est bien le territoire. Et donc, un des gros challenges de la création du projet, du centre, c'est comment on implique les habitants en amont et puis ensuite comment on implique les habitants par la suite dans les activités du centre et notamment dans la gouvernance.
Ça veut dire que vous savez déjà ce qu'on trouvera dans ce centre de santé ?
En termes de consultation, il y aura des médecins généralistes, donc 4 médecins, un infirmier d'éducation thérapeutique, donc on appelle infirmier azalé, une sage-femme et une orthophoniste. Il y aura un médiateur en santé qui sera chargé de faire le lien entre les professionnels de santé et les habitants, entre les structures et les administrations et les habitants, qui sera une sorte de facilitateur d'accès aux soins. Il y aura des accueillants donc dans notre espace d'accueil qu'on veut convivial et qui soit un espace de discussion et pas une simple salle d'attente. Et puis il y aura des coordinatrices, 2 coordinatrices gestionnaires pour mener la danse.
Dans les zones plus rurales, on parle beaucoup de maisons de santé. C'est quoi la différence ?
Alors une maison de santé, c'est des professionnels de santé libéraux qui se regroupent dans un même lieu avec un projet de santé commun, mais on est bien sur des professionnels libéraux. Là, le centre de santé, on est salarié d'une structure, donc les professionnels ne sont pas payés à l'acte, mais sont salariés, donc on a un salaire fixe. Là, nous, on fait le choix d'une structure associative, mais les centres de santé peuvent être municipaux, c'est-à-dire que les professionnels sont salariés d'une municipalité, ils peuvent être mutualistes, il y a plusieurs modèles. Mais le cœur, c'est bien le salariat, l'accessibilité à tous, donc pratiquer le tiers payant, voire le tiers payant intégral, et des plages horaires d'ouverture qui vont du lundi matin au samedi midi minimum. Donc il y a un cahier des charges quand même pour être centre de santé.
Avec un service d'urgence également ?
Non, il n'y a pas de service d'urgence. Il peut y avoir des consultations qu'on appelle fil rouge, c'est-à-dire qu'il y a des consultations programmées et des consultations non programmées. Mais après, il y a des urgences de médecine générale, enfin, c'est-à-dire que les gens peuvent être vus en urgence. Mais après, il n'y a pas de service d'urgence à proprement parler. Les gens devront continuer à aller aux urgences pour ce qui relève des urgences.
Ce reportage a été réalisé par la Corlab. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org. We'll be right back.
Je veux